L'abdication du tsar par Raymond Recouly. Il est impossible d'imaginer une scène plus dramatique, plus émouvante. Dans le vaste et magnifique salon du train impérial, deux civils, délégués du peuple tout-puissant qui, pour la première fois depuis des siècles, se dressent ouvertement devant le tsar pour lui signifier, lui dicter sa volonté, des généraux en uniforme, quelques grands dignitaires de la cour, entourent l'empereur qui, dans quelques instants, cessera de l'être. Dehors, c'est le froid glacial, le silence et la nuit. Dans ce train bien chauffé, confortable et somptueux comme un palais, vont se prononcer les dernières paroles, s'accomplir les derniers gestes qui marquent l'écroulement du tsarisme. À peine entré, Nicolas II, ayant serré la main des deux envoyés de la Douma, Gouchkov et Tchoulguine, s'assied devant une petite table pliante et fait signe à ses hôtes de prendre place à son côté. Quelques minutes d'un silence lourd d'angoisse, et tout aussitôt, Gouchkov, d'une voix respectueuse et sourde, regardant droit devant lui, articule lentement et posément, dit à l'empereur « Sire, vous connaissez les événements qui viennent de s'accomplir. Il ne s'agit pas d'une mutinerie de quelques régiments, mais d'une révolution à laquelle l'armée, le peuple tout entier, ont donné leur adhésion. Vous ne pouvez pas songer à la réprimer par la force, parce que vous ne disposez d'aucun moyen pour cela. Pas une seule de vos troupes ne consentira à marcher contre les révolutionnaires. À supposer qu'un de vos généraux en rassemble une, à peine entrée en contact avec les émeutiers, dès qu'elle respirera la même atmosphère qu'eux, elle passera immanquablement de leur côté. Pour vous en donner une preuve, je puis vous dire qu'hier encore, le régiment de votre garde personnelle, les Cosaques du convoi, ont envoyé à la Douma une députation composée de sous-officiers pour déclarer qu'ils n'entreprendraient rien contre sa volonté, le seul devoir qu'ils désirent remplir étant d'assurer la sauvegarde de votre personne et de vos biens. Si vous ne pouvez même pas compter sur les soldats de votre escorte, il serait vain d'en chercher ailleurs pour engager la lutte contre le nouveau pouvoir. Je puis vous assurer que si vous les cherchiez, vous ne les trouveriez pas. » À ce moment, le froid, l'impénétrable Rouski, interrompant Gouchkov, dit à l'empereur « Sire, en ma qualité de commandant-chef du front Nord, j'ai le devoir de vous déclarer que je partage entièrement l'opinion qui vient de vous être exprimée. Ainsi, reprend Gouchkov, il ne reste qu'une solution, vous soumettre à la volonté du peuple, abdiquer en faveur de votre fils. C'est le seul moyen de sauver la dynastie et le pays, de lui permettre de continuer la guerre et de remporter la victoire. Je vous demande de réfléchir à ce que je viens de vous dire, de prendre conseil de votre conscience, de vous adresser à Dieu qui vous inspirera les résolutions nécessaires. Il faut seulement que ces résolutions soient prises sans retard, cette nuit même, car les événements vont vite. Toute journée, toute heure de retard peut provoquer les pires catastrophes. » L'empereur avait écouté tout cela sans un mot, sans un geste. Son visage n'avait pas bougé. Seul un tressaillement, une contradiction crispèrent visiblement ses traits lorsque Gouchkov fit allusion à la démarche du convoi. « J'ai longuement réfléchi, dit-il d'une voix unie et calme, à tout ce que vous venez de me dire. Ma décision est prise. Je suis résolu à abdiquer immédiatement. Désireux de ne me séparer pour rien au monde de mon fils bien-aimé, je n'abdiquerai pas en sa faveur mais en faveur de mon frère, le grand-duc Michel. Dans quelques instants, je vous remettrai moi-même ici ma lettre d'abdication. » Là-dessus, le tsar se lève et se dirige vers la porte de son appartement. « Sire, lui dit Gouchkov, l'abdication en faveur de votre frère et non pas en faveur de votre fils, l'héritier légitime, modifie la loi de succession et risque de provoquer des complications et des troubles. Je vous demande de ne rien changer à cette loi fondamentale de votre dynastie. » « Ma décision sur ce point, répond sèchement l'empereur, est absolument irrévocable. Rien ne m'amènera à la changer. » « Permettez-moi alors, lui dit Gouchkov, de remettre à votre majesté un projet de résolution que nous avons rédigé, mon collègue et moi, et dont peut-être vous voudrez bien vous inspirer dans votre lettre. » Il lui donne alors le document que le tsar accepte sans difficulté. Nicolas disparut, la porte refermée sur lui. Un quart d'heure environ s'écoule sans que nul, parmi les assistants, prononce le moindre mot, fasse le moindre mouvement. Ils attendent, immobiles, muets, avec une impatience grandissante. La porte s'ouvre de nouveau, Le tsar paraît, tenant en main une simple feuille dactylographiée, au bas de laquelle figure en caractère menu sa signature. C'est la lettre d'abdication dont il leur donne lecture. Rédigée avant son départ du grand quartier général par les soins de son entourage, le tsar s'est contenté d'y apporter quelques légères retouches. Elle est très belle et très émouvante, pleine de dignité et de patriotisme. Par la grâce de Dieu, nous, Nicolas II, empereur de toute la Russie, tsar de Pologne, grand-duc de Finlande, etc., etc., à tous nos fidèles sujets, faisons savoir. En ces jours de grande lutte contre l'ennemi extérieur, qui depuis 3 ans s'efforce d'asservir notre patrie, Dieu a trouvé bon d'envoyer à la Russie une nouvelle et terrible épreuve. Des troubles intérieurs menacent d'avoir une répercussion fatale sur la marche ultérieure de cette guerre opiniâtre. Les destinées de la Russie, l'honneur de notre héroïque armée, le bonheur du peuple, tout l'avenir de notre chère patrie veulent que la guerre soit menée à tout prix jusqu'à une fin victorieuse. C'est pourquoi, d'accord avec la Douma d'Empire, nous estimons bien faire en abdiquant la couronne de l'État russe et en déposant le pouvoir suprême. Ne voulant pas nous séparer de notre fils bien-aimé, nous léguons notre héritage à notre frère le grand-duc Michel Alexandrovitch en lui donnant notre bénédiction à l'instant de son avènement au trône. Nous lui demandons de gouverner en pleine union avec les représentants de la nation qui siègent aux assemblées législatives et de leur prêter un serment inviolable au nom de la patrie bien-aimée. Nous faisons appel à tous les fils loyaux de la Russie. Nous leur demandons d'accomplir leurs devoirs patriotiques et sacrés en obéissant au tsar dans cette pénible épreuve nationale et de l'aider, avec les représentants du pays, à conduire l'État russe dans les voies de la gloire et de la prospérité. Que Dieu aide la Russie. Nicolas. La lecture achevée. Sire, reprend Goutchkov, il est indispensable que nous ne soyons pas les seuls à détenir ce précieux document. Nul ne sait ce qui peut arriver. Nous pouvons être arrêtés, assassinés. Il faut qu'un second exemplaire soit conservé au quartier général. « C'est bien, » répond simplement l'empereur, « je vais préparer une deuxième copie. »« Avant de nous séparer, » dit Goutchkov, « j'ai une dernière prière à adresser à votre majesté. Il y a le plus grand intérêt à ce qu'elle nomme, par un double ukase, un commandant en chef des armées, puisque le commandement suprême ne sera plus exercé par vous, et aussi un premier ministre. Je vous propose, comme généralissime, le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch et comme premier ministre, le prince Lvov. Je ferai, dit le tsar, ces 2 nominations. S'asseyant à sa table, il écrit quelques mots sur un papier, puis s'adressant à Goutchkov, comme s'il s'agissait d'une affaire capitale. Dites-moi quel est exactement le grade hiérarchique, le tchin du prince Lvov. Sur ces mots, les assistants prennent congé du tsar qui leur serre la main. Goutchkov et Choulguin se rendent avec le commandant en chef dans son train, tout voisin, Ourouski leur fait servir un léger repas, car ils n'ont rien mangé ou presque de tout le jour. Il y a là, à côté du commandant en chef, un général d'état-major, Savitch, ancien chef du corps des gendarmes. Ourouski, si froid, si glacial d'ordinaire, paraît maintenant soulagé d'un terrible fardeau, détendu, presque joyeux. Quant à Savitch, sa joie est plus marquée encore, plus visible. Goutchkov, loyaliste, monarchiste dans l'âme, convaincu que seule une dynastie puissante peut assurer la tranquillité et la prospérité de la Russie, en éprouve une certaine surprise. Ému, bouleversé par la scène à laquelle il vient d'assister, où il a tenu, malgré lui, le principal rôle, plein de compassion pour l'empereur, il ne peut s'empêcher de comparer son état d'esprit à celui des personnes qui l'entourent. « Nous autres, me disait-il plus tard, depuis si longtemps luttions contre les errements du tsar, qui n'avions eu de lui ni égard, ni considération, ni bienfait, tout au contraire, nous compatissions à ses malheurs. Ceux, en revanche, qu'il avait comblé de récompenses, de dignité, l'abandonnaient avec une absolue désinvolture. Rien ne prouve mieux à quel point le tsar, par une longue suite de fautes, a fait le vide, un vide complet, effrayant, autour de lui. À l'heure où son trône s'écroule, nul parmi ses favoris, ses dignitaires, les personnages de sa suite, les grands chefs de l'armée ne lèvent le plus petit doigt, n'esquissent le moindre geste pour le défendre. Il apparaît isolé, retranché de la communauté de ses sujets, tandis que les Suisses de Louis XVI, qui ne sont après tout que des salariés, se font héroïquement massacrer à la journée du 10 août, les soldats de sa garde personnelle, les cosaques de son escorte, qui, dans leur magnifique costume, d'ailleurs immobile aux portes de son appartement, l'abandonne aussi aisément, aussi rapidement que tous les autres. Lorsque Goutchkov a parlé tout à l'heure de la démarche accomplie par le convoi, le tsar, si calme, a marqué un geste de tristesse. Cette démarche était pour lui le coup suprême, détruisant ses dernières illusions. Goutchkov, de se rappeler alors cette curieuse anecdote qu'il me raconta. Deux ou trois années avant la guerre, une députation de Cosaques du Kouan avait été reçue par l'empereur. Il y avait là de vieux soldats chamarrés de décorations. Le tsar, qui n'avait aucun magnétisme, aucun fluide, se contenta de leur serrer distraitement automatiquement la main en posant à chacun d'eux exactement cette même question banale. « De quel stanitsa, de quel village êtes-vous ? » Les Cosaques furent aussi mal que possible impressionnés par la froideur de cet accueil. Le lendemain, reçus et festoyés dans le palais même par leurs camarades de l'escorte, ceux-ci, après un excellent repas, arrosé de copieuses libations, délièrent leur langue et se mirent à leur raconter tout au long les choses dont ils étaient témoins et dont tout le monde s'entretenait à voix basse, les agissements de Rasputin, ses intrigues, son influence grandissante sur l'impératrice et l'empereur. Arrivés dans la capitale très loyaliste, ils retournaient dans leur montagne avec un état d'esprit tout différent. Leur fidélité au monarque, à la dynastie, venait de subir une grave fêlure. Cette fêlure alla sans cesse en s'élargissant. Le calme, la tranquillité du tsar au cours de toute cette scène, parut à Goutchkov quelque chose d'étrange, d'anormal. Seul un héros, un surhomme, aurait pu exercer sur lui-même un contrôle et une maîtrise suffisante pour provoquer cette impassibilité. Or, le tsar n'avait malheureusement rien d'un héros. Il n'était pas supérieur, mais nettement inférieur à la moyenne des humains. Son calme ne peut donc s'expliquer que par une sorte de demi-conscience de torpeur, d'hébétement. Il semblait ne pas se rendre compte exactement de ce qui se passait autour de lui. Les assistants éprouvèrent un sentiment de pitié profonde envers cet homme, portant sur ses épaules un fardeau manifestement trop lourd pour lui. « Vous souvenez-vous, me disait l'un d'eux, de ces exécutions chinoises auxquelles nous assistions, souvent bien malgré nous, car il y en avait chaque jour, sous les remparts poussiéreux et moyenâgeux de Mukden. Au milieu d'un appareil impressionnant, barbare, aux sonneries lugubres des trompettes, le bourreau décapitait par quatre ou cinq à la file, les condamnés agenouillés à même la terre, les pieds emprisonnés dans une lourde entrave de bois. Le plus extraordinaire est qu'au sourire épanoui du bourreau, pareil à un ténor qui lance en ut de poitrine, correspondait une sorte d'acquiescement résigné, presque un demi-sourire des victimes, dû sans doute à la forte dose d'opium qu'on leur avait préalablement administrée. Cette faiblesse du tsar fut, jusqu'au dernier moment, la cause des plus grands malheurs non seulement pour les siens, mais aussi pour son pays. Son amour pour son fils, auquel il s'abandonna immodérément et sans contrainte, ce dont un souverain n'a pas le droit, lui fit commettre envers son peuple une lourde faute, presque un crime. En s'affranchissant des règles auxquelles il aurait dû, plus que personne, strictement se tenir, en violant la loi de succession à l'Empire, en ne réglant pas lui-même une fois pour toutes, conformément aux traditions, cette question, il laissait à d'autres la possibilité de la régler contrairement aux intérêts de la Russie. Son fils devenant automatiquement son successeur, sous la régence du grand-duc Michel, aucune discussion n'était plus possible à cet égard. Le roi est mort, vive le roi. Un tsar nouveau prenait la place du tsar disparu. Comme il s'agissait d'un enfant sans défense, nul ne pouvait songer à exercer sur lui une pression pour l'amener à refuser le trône. Il en était tout autrement avec le grand-duc Michel. C'est exactement ce qui se produisit en effet. Tandis que le ci-devant Nicolas II reprend dans son train le chemin de Moïlev, Goutchkov et Tchoulguine regagnent en toute hâte Petrograd. Arrivés à la gare Nicolas, les ingénieurs viennent les prévenir qu'une réunion de cheminots, où se sont glissés quantité de soldats, se tient en ce moment dans un des halls de la gare et que les assistants, de plus en plus excités, discutent justement l'abdication du tsar. Les ingénieurs supplient Goutchkov d'aller parler à la foule pour l'empêcher de se porter aux pires violences. Goutchkov se rend aussitôt à la réunion. Il prend la parole, annonce à mots couverts l'abdication et l'avènement d'un nouveau tsar, le grand-duc Michel. Là-dessus, violentes protestations, clameurs indignées de l'assistance qui ne veut pas de cette solution. Un groupe de gens, particulièrement excités, entoure l'orateur menace de le garder prisonnier. Or, Goutchkov porte sur lui, caché tout au fond de son portefeuille, le document signé de Nicolas II. Il s'échappe à grand-peine pour se rendre, sans une minute de retard, à la fameuse réunion rue Miltionaya, où en présence du grand-duc Michel et les membres du nouveau gouvernement, se règle, par la négative, la question fondamentale de la succession au trône. Kerensky, de plus en plus pressant, finit, à force d'insistance, par obtenir du grand-duc qu'il renonce provisoirement au trône, qu'il attend d'être désigné par une assemblée constituante. C'est attendre bien longtemps, alors que les événements, eux, n'attendent pas. Seul Goutchkov, aidé de Milioukov, celui-ci d'ailleurs lâche en pied assez vite, élève une énergique protestation. Les autres membres modérés du gouvernement, le prince Elbov, entre autres, sont de l'avis de Kerensky, ce qui a pour effet de lever les dernières hésitations du grand-duc. Les sorts sont jetés. La Russie n'a plus de chef à l'heure où elle aurait tant besoin d'en avoir un. Son ancien maître, qui méritait si peu ce nom, vient d'arriver au grand quartier général où il n'est plus maintenant, au lieu d'un dieu tout-puissant, qu'un homme pareil aux autres, déjà presque un prisonnier. Tandis que son train roule parmi les étendues glacées, les souvenirs de ses grands ancêtres qui firent de la Russie un des plus formidables empires du monde, Pierre le Grand, Catherine, Alexandre, Nicolas Ier, ne vinrent-ils pas le visiter ? Durant les minutes tragiques de Peskov, alors qu'il signait le papier fatal, leurs images ne surgirent-elles pas à ses yeux ? Mais non, et là est la tragédie. Ces derniers mots sont pour demander à Goutchkov quel est le tchin du prince Elbov. Ainsi, la seule affaire qu'il occupe en cette minute pathétique est une question de formalisme, de bureaucratie. Il désire savoir au juste, comme une affaire capitale, le nombre de boutons que possède le mandarin. Kakoechin. Ainsi s'achève l'abdication du tsar par Raymond Recouly.